Le journal vous est présenté par Diane Berger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jean-Paul Dubois et ses personnages mélancoliques sacrés aujourd'hui par le prix Goncourt. L'auteur est primé pour son 22e ouvrage « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Le sort des AESH, les accompagnements d'élèves en situation de handicap, s'est-il amélioré ? L'éducation nationale dresse un premier bilan. Et ce sera demain un triste anniversaire à Marseille, celui du drame de la rue d'Aubagne, un accident mortel devenu emblématique des problèmes de logement insalubre. Pour en parler, l'urbaniste Philippe Méjean sera notre invité. Et le président de la République, Emmanuel Macron, est en visite officielle en Chine. Il a choisi, pour peser face à Pékin, de jouer la carte européenne. Une correspondance sur place de Dominique André. Le prix Goncourt attribué à Jean-Paul Dubois pour son roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. L'histoire, celle de l'un des personnages récurrents de l'œuvre de l'auteur, Paul Hansen. Cette fois, il est incarcéré dans une prison québécoise. Son compagnon de cellule, un certain Patrick Horton, un Hells Angel, un motard d'une humanité finalement touchante. L'œuvre de Jean-Paul Dubois repose essentiellement justement sur la mélancolie de ses héros, notamment celle de Paul. Nathalie Crom est responsable du service livre du magazine Télérama.
Les personnages sont toujours d'une manière ou d'une autre des doubles de l'écrivain. Après, moi, je ne le connais pas assez pour dire que je le reconnais, mais je pense que le fait que ce personnage, même s'il a une biographie complètement différente de livre en livre, néanmoins, on reconnaît quelque chose de sa vision du monde, de sa façon d'être au monde en général, d'y être plutôt mal à l'aise, d'y être plutôt un outsider, d'être plutôt un peu largué comme ça, ou largué volontaire, qui fait que effectivement c'est tellement le personnage de Dubois, ce Paul à la fois changeant et toujours un peu le même. Il y a sans doute une proximité avec Jean-Paul Dubois. D'ailleurs, on voit bien que il a aussi écrit des livres de journaliste, entre guillemets, notamment de textes, beaucoup autour des États-Unis, puisqu'il a beaucoup travaillé comme journaliste aux États-Unis. Ses reportages ont aussi cette voix-là. Donc, effectivement, il n'y a quand même pas de grand hiatus, je pense. Je trouve que cette voix, elle a la faculté à la fois d'être très lucide sur l'expérience humaine, on va dire, donc qu'est-ce que c'est le métier de vivre, et en même temps, étrangement, d'être très consolatrice, quoi. Il y a quelque chose de très empathique et quelque chose de très doux dans la mélancolie et le désenchantement de Jean-Paul Dubois.
Nathalie Crom au micro de Florence Turm. Et Jean-Paul Dubois, prix Goncourt de l'année 2019, sera l'invité des matins de France Culture demain. Le parquet ouvre une information judiciaire après les violences de samedi dernier à Chanteloup-les-Vignes. Deux personnes interpellées vont être présentées à un juge d'instruction en vue d'un éventuel placement en détention provisoire. Il y a deux jours, la commune des Yvelines a été secouée par une vague de violences au cours desquelles l'Arche, un édifice culturel et social emblématique de la ville, a été entièrement incendié. Et ce lundi de rentrée scolaire, le gouvernement a présenté aujourd'hui le bilan de son plan pour une école dite inclusive. Elle est censée être capable d'accueillir pleinement les enfants en situation de handicap, mais sont-ils réellement mieux épaulés que l'année dernière ? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, affirme qu'il y a 4500 accompagnants d'élèves en situation de handicap en plus, aussi appelé AESH qu'en 2017. Un progrès, appuie-t-il, mais sur le terrain, le bilan est bien moins positif. Hélène Edouard est déléguée CGT Éducation et membre du collectif AESH.
Il y a plusieurs familles qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants et il y a beaucoup d'élèves qui sont dans les classes, malgré les promesses du gouvernement, à attendre leurs AESH, ou des élèves qui avaient une notification MDPH, par exemple, de 20 heures et qui se retrouvent avec une AESH qui gère seulement 6 heures. C'est-à-dire qu'ils n'ont que 6 heures au lieu de 20 heures attribuées par la MDPH. Parce que c'est un petit peu le rôle des PIAL aussi, ces pôles de coordination, de diminuer les heures des notifications des élèves en fonction du personnel qu'ils ont sous la main.
Rien qu'à la rentrée, même si on crée des postes, il y avait 8000 postes non pourvus du fait de la précarité de ce métier.
Il y a beaucoup de postes non pourvus et en plus ce sont des postes toujours à temps partiel avec un salaire misérable et sans statut. Il faut bien dire que nous n'avons toujours pas de statut de la fonction publique, on n'est toujours pas titularisé.
Propos recueillis par Hakim Kasmi et l'intersyndicale des AESH prévoit une journée de mobilisation nationale le 20 novembre prochain. À Marseille, cela fera demain un an que deux immeubles se sont effondrés rue d'Aubagne. Le drame avait fait 8 victimes et il était devenu très vite un symbole des problèmes d'insalubrité en France. Bâtiments humides, habitats fissurés, immeubles sur le point de s'effondrer. Où en est-on un an après ? Nous sommes ce soir avec un spécialiste des politiques de la ville, ancien enseignant-chercheur à l'Institut d'urbanisme d'Aix-Marseille. Philippe Méjean, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui a changé depuis un an ?
Pas grand-chose. On est sur une question particulièrement compliquée. Les grands paquebots ont beaucoup de difficultés à manœuvrer dans les ports. La manœuvre est longue. Si vous voulez, le logement n'est pas un produit comme les autres. D'abord, ça appartient à des propriétaires qui sont maîtres chez eux. Donc, c'est eux qui sont décideurs. La puissance publique ne peut pas intervenir comme ça de son propre chef. Deuxièmement, c'est un produit qui est très cher. On sait tous qu'investir dans son logement ou le réparer, ça revient très cher. Et donc, naturellement, ça n'encourage pas les gens à agir. Et puis, troisièmement, on est dans un système où il y a une répartition des responsabilités entre plusieurs partenaires, plusieurs acteurs, s'agissant notamment du traitement du logement insalubre, indigne, où à la fois l'État, les collectivités locales, les communes, les établissements de coopération intercommunale, voire même le département, la CAF, etc., tout le monde est responsable. Enfin, tout le monde a un bout de responsabilité au titre de législations, si vous voulez, qui sont nombreuses, qui sont différentes. Voilà. Et donc, on a une boîte à outils qui est très complexe à manier. Et il faut effectivement beaucoup de détermination pour la manier avec efficacité. Ça n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut, notamment à Marseille.
Et justement, le cas de Marseille est devenu assez symbolique de la situation en France. Pourquoi dans cette ville, la situation est-elle devenue aussi critique ?
Je pense que l'habitat, le parc de logement, si vous voulez, à Marseille, c'est une vieille affaire et est plus dégradé depuis plus longtemps qu'ailleurs dans certains quartiers de Marseille. Il y avait d'abord ce premier facteur, si vous voulez, d'une situation plus importante de dégradation, et ça de longue date. Deuxièmement, on a eu une succession de responsables locaux, de maires, depuis Defferre. Hein. Defferre est également co-responsable de cette situation, qui n'ont pas pris la mesure du problème et qui n'ont jamais mis en place. Alors il s'est fait des choses, évidemment. Hein. Mais on n'a jamais été à la hauteur du problème dans les moyens mobilisés, dans la continuité. Il faut avoir des programmes, si vous voulez, pluriannuels. Il faut une vraie stratégie. On ne peut pas intervenir comme on le fait aujourd'hui à Marseille, un peu dans l'urgence. Alors il faut intervenir dans l'urgence, mais en même temps, il faut se doter de stratégies moyen-long terme. Et ça, ben, à Marseille, on ne sait pas bien faire. Voilà.
Et aujourd'hui, plus généralement, sur l'ensemble de la France, comment est la situation ? Est-ce qu'on sait combien de logements sont dans un état insalubre ?
Eh bien, bonne question. La réponse est non. On ne sait pas, enfin on ne sait pas de manière précise, de manière validée si vous voulez. On parle de 600 000 logements indignes. L'indignité c'est une notion large qui recouvre plusieurs cas de figure, notamment la dangerosité, l'insalubrité, le péril, etc. On parle de 600 000, mais c'est un chiffre sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. Alors l'État dit il y en a moins, il y en a 420 000. Et en plus, si vous voulez, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on parle de 600 000 ou 420 000, c'est pas des logements forcément insalubres. C'est des logements dont on pense, compte tenu d'un certain nombre de paramètres dont on dispose, les données cadastrales, les données des impôts, on pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'ils soient insalubres, en mauvais état, etc. Mais c'est pas une certitude. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, personne n'est capable de dire combien il y a de logements à traiter en France au titre de l'insalubrité ou de l'indignité. On ne sait pas le dire. Alors on progresse doucement parce qu'il y a un certain nombre d'observatoires qui sont mis en place dans certaines villes. Et on commence à avoir des données, si vous voulez, mais on est loin de pouvoir disposer de diagnostics consolidés, de données consolidées aussi au niveau national. On en est très loin.
Et il semblerait, de ce que vous rapportez, qu'il va falloir beaucoup de temps en fait pour constituer d'abord une base de données et ensuite un mode d'action. Alors qu'on parle de situations qui sont parfois très urgentes, de bâtiments qui sont sur le point de s'effondrer. Comment faire concrètement pour régler cette situation qui est urgente ?
Bah, si vous voulez, dans l'urgence, on fait un certain nombre de choses parce qu'on est obligé de le faire, notamment à Marseille, avec plus ou moins de bonheur, si je puis dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des situations très difficiles, qui ont été expulsés de leur logement. Donc il y a une charte de relogement, enfin il y a un certain nombre de choses, il y a des moyens un peu exceptionnels qui sont dégagés par l'État, y compris au niveau national, compte tenu de l'exceptionnalité de la situation. Mais il faut, si vous voulez, il faut faire un grand ménage, de manière beaucoup plus fondamentale, un grand ménage dans ce qu'on pourrait appeler la boîte à outils, si vous voulez, du parfait urbaniste en charge de régler ces questions. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des outils et des procédures qui sont trop complexes, qui sont quelquefois qui se cumulent, qui se contredisent. On ne sait pas qui fait quoi, si vous voulez. Le préfet fait un certain nombre de choses, il renvoie la balle au maire, qui lui-même lui renvoie la balle, qui lui ensuite va la renvoyer au président du conseil départemental, etc. Donc il faut sortir de cette situation où les institutions s'avèrent incapables, si vous voulez, de se mettre en ordre de bataille pour régler les situations dans le long terme. Donc il faut un vrai toilettage, si vous voulez, de la boîte à outils, de façon à ce que, localement, il y ait un responsable, que ce soit à la limite le représentant de l'État ou le représentant des collectivités, mais il faut qu'il y ait un responsable qui ait la légitimité et la capacité, si vous voulez, d'organiser l'action autour de lui et de mettre les autres institutions en ordre de bataille, si vous voulez, pour agir. Et ça nécessite, si vous voulez, un travail législatif important. Je ne suis pas sûr qu'il se prépare vraiment pour l'instant. Voilà.
Merci Philippe Méjean. Je le rappelle, vous êtes urbaniste, ancien enseignant-chercheur à l'Institut d'urbanisme d'Aix-Marseille. Emmanuel Macron est arrivé à Shanghai pour une visite officielle centrée sur les questions commerciales. Le président de la République y a d'ailleurs annoncé la signature mercredi d'un accord entre Pékin et l'Union européenne sur les indications géographiques protégées. Mais c'est aussi, Dominique André, une stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron face à la puissance chinoise jouer la carte européenne.
C'est une réunion inédite qui s'est tenue ce soir à Shanghai avec Emmanuel Macron, le commissaire européen Phil Hogan, des entreprises françaises et allemandes. L'objectif était d'évoquer le climat des affaires difficile en Chine pour les entreprises étrangères, mais au-delà, le message à tous était « il faut jouer européen ». L'annonce de l'accord sino-européen sur les indications géographiques protégées, qui estampille par exemple le vin de Bourgogne et les nouilles chinoises Longkofenshe, est une première étape dans la stratégie européenne, analyse l'ancien ministre socialiste Jean-Marie Le Guen, qui accompagne le chef de l'État en Chine.
Je crois que c'est l'apport spécifique d'Emmanuel Macron dans la discussion entre la France et la Chine, ça a été d'européaniser en quelque sorte notre position. En tant qu'Européens, nous pesons plus vis-à-vis de la Chine, et puis c'est bien aussi que l'Europe parle d'une seule voix sur les grandes questions de souveraineté internationale, et on est en plein dans le débat entre les États-Unis, la Chine, l'Europe. L'Europe parle d'une voix, notamment avec Emmanuel Macron.
C'est un signal très fort pour l'Union européenne et la Chine. J'espère que nous aurons marqué un premier point qui en appellera d'autres, a déclaré le commissaire européen Phil Hogan, qui s'exprimait ce soir aux côtés d'Emmanuel Macron.
Un reportage à Shanghai de Dominique André. Les députés britanniques ont désigné le nouveau président de la Chambre des communes, aussi appelé le Speaker. C'est le travailliste Lindsay Hoyle qui prendra donc la succession de John Bercow en poste depuis 10 ans. Ce sera donc le député de 62 ans qui devra conduire les débats parlementaires sur l'interminable feuilleton du Brexit. Et c'est désormais officiel, les États-Unis viennent formellement de notifier l'ONU de leur sortie de l'accord de Paris. Une mesure décidée par Donald Trump dès 2017, mais qui ne pouvait intervenir plus tôt en raison d'une clause inscrite dans le texte. Le retrait sera pleinement effectif un an après sa notification, soit le 4 novembre 2020. Le roi d'Espagne, Felipe VI, est en déplacement en Catalogne avec sa femme et ses deux filles. Il participe en ce moment à la remise des prix Princesse de Gérone, des récompenses pour des scientifiques ou des artistes impliqués dans la société. Mais cette visite royale a également une dimension politique. Les élections législatives ont lieu cette semaine, alors que les peines de prison prononcées récemment contre les dirigeants indépendantistes ont réveillé la mobilisation et les séparatistes catalans réclament l'instauration d'une république. Ils manifestent ce soir à Barcelone. Juliette Jay est avec eux.
Faire le plus de bruit possible pour tenter de boycotter la visite du roi. C'est le principe de la cacerolada à laquelle s'adonnent les manifestants catalans dans plusieurs points de rassemblement à Barcelone. Pour Nouria, étudiante catalane abolitionniste, le monarque ne devrait tout simplement plus venir ici.
Nous ne devrions plus avoir de roi. On est au 21e siècle et la monarchie est une insulte pour le peuple. Faire cette visite 5 jours avant les élections, c'est assurément une provocation. Ils veulent qu'on sorte dans la rue. Que toutes les revendications se mélangent et qu'on passe encore pour des gens violents alors qu'on veut juste défendre nos droits.
Edgar est surtout déçu de ces apparitions de façade, selon lui, de la famille royale. Il préférerait que le roi s'implique dans la résolution de la crise catalane.
Quand la famille royale vient, elle vient entourée de policiers, très protégée pour ne pas voir la réalité de la rue. Ils viennent pour se montrer, mais pas pour régler les problèmes de la société. Je serais ravi que le roi s'asseye à une table avec le président du gouvernement catalan et la société civile pour trouver un accord et une solution à la crise.
C'est dans ce contexte tendu que la princesse héritière Léonore doit donner son premier discours en Catalogne. 3 manifestations sont convoquées ce soir par les comités de défense de la République. 4 500 policiers et 250 agents anti-émeutes sont sur place pour assurer la sécurité du roi.
Et le temps, demain, toujours pluvieux sur une majeure partie du pays, orageux même demain matin dans les Côtes d'Armor, le Cotentin, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse. Demain matin, il fera 7 degrés à Aurillac, 9 à Lille, 10 à Paris, 11 à Brest, 15 à degrés à Toulon et 20 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Cette édition a été préparée avec Annie Brault et Olivier Arnay à la technique.